about you. Are you racing or watching?
La dispute. Ce soir, les arts plastiques. Cette émission est préparée par Aïssa Tundoy, Lucille Como, Boris Pinot et Grégoire Difior et prise de son assurée ce soir par Antoine Pétiloni, réalisation Daniel Finot. Autour de moi, ce soir, Anaël Pigeat, Florian Guettet, Stéphane Coréard, à notre affiche des livres sur l'art. Pierre Soulages de Robert Fleck et Hans-Ulrich Obrist, c'est aux éditions Manuela. Une histoire des espaces alternatifs à New York de South Bronx, 1969-1985 de Pauline Chevalier, aux éditions Presse du Réel. Et enfin, William Kentridge, Smoke, Ashes, Fable, édition Actes Sud, qui est en fait un catalogue, on va dire, augmenté de l'exposition qui a lieu en ce moment à Bruges. Aïssa Tundoy surveille d'ores et déjà Twitter. On va voir si nos internautes, auditeurs, auditrices lisent des livres sur l'art et ont des commentaires à y faire. C'est un défi que je leur lance, évidemment. Puis toujours des cadeaux à gagner grâce au jeu de la dispute ce soir, des places de cinéma pour le film The Florida Project de Sean Baker qui est sorti aujourd'hui sur les écrans. Une dispute art plastique un peu particulière, donc, puisque des livres sont à notre programme. Les critiques ont râlé, mais c'est comme ça. À quelques jours de Noël, ça vous donnera peut-être des idées de cadeaux. Alors pensez-y. Ça nous permet surtout de mettre à l'honneur aussi des maisons d'édition qui mènent un travail de longue haleine, le plus souvent assez loin des feux médiatiques, comme ce sera le cas tout à l'heure avec les presses du Réel et tout de suite avec Manuela Édition, qui publie un livre sobrement intitulé « Pierre Soulages ». Co-signé Robert Fleck et Hans-Ulrich Obrist, le second mène des entretiens avec Soulages depuis une vingtaine d'années. On trouvera dans ce livre les entretiens les plus récents qui datent de 2016. Robert Fleck, lui, nous livre une étude historique et théorique en proposant notamment une analyse assez fouillée de la réception du travail de Soulages en Allemagne et aux États-Unis et en quoi cette réception a pu influer sur la carrière de l'artiste. Entrons sans plus attendre dans ce livre consacré à Pierre Soulages. Pierre Soulages, c'est son titre. C'est drôle finalement d'ailleurs, le titre soit simplement Pierre Soulages. Est-ce qu'on saura tout sur Pierre Soulages en lisant ce livre paru chez Manuela Édition? On va en savoir beaucoup quand même. Florian Guettet, vous ouvrez le bal?
Oui.
Merci.
Bien, oui, il est intitulé sobrement Pierre Soulages, mais c'est aussi par respect pour la concision et la sobriété de l'œuvre. Donc, je trouve qu'il y a quelque chose d'assez logique là-dedans. Alors effectivement, il y a un effet d'annonce avec répété en quatrième de couverture et dans l'introduction que ce ne sera pas qu'un livre historique, ce sera un livre théorique. Moi, je l'ai quand même bien pris pour un livre historique. Je trouve que théoriquement, c'est parfois un peu faible. En revanche, il y a des très très belles descriptions hein, des œuvres qui sont vraiment très fouillées, très justes, très précises, très sensibles aussi. Donc, on y retrace le parcours de Soulages par effectivement tout un logiciel aussi critique qui est convoqué à bon escient hein, et qui vient vraiment compléter les remarques de l'auteur. Donc la plus grande partie est prise par ce texte de Robert Fleck, et puis il y a un entretien de Hans Ulrich Obrist qui moi m'a paru un peu feignant, pour tout vous dire. J'ai pas trouvé que le
c'est vraiment un verbatim, hein. Ouais. On va dire qu'il l'est beaucoup réécrit.
Non, effectivement. Et puis il y a une sorte de rythme comme ça, un peu à bâton rompu, qui finit un peu en théâtral avec des exclamations de c'est beau, c'est très beau, la lumière c'est la vie. Enfin, moi ça m'a un peu déçu, sur la fin. Je trouvais ça un peu complaisant aussi. Et finalement ça nous dit pas grand chose, sauf que ça dit quand même quelque chose de, on va dire, l'intimité ou la façon très intime qu'a Pierre Soulages de parler, son franc-parler en fait, puisqu'on a pu voir en fait dans le texte des sortes de fulgurances, de traits d'esprit que je connaissais pas en fait de Pierre Soulages et qui m'ont beaucoup plu, notamment sa réponse à Pastoureau quand il dit finalement le noir c'est pas que le deuil ou la gravité, etc. Et il lui dit mais finalement c'est pas parce qu'on écrit une lettre à l'encre noire que c'est forcément une lettre de condoléances, ce que j'ai trouvé assez fin. Alors on y trouve évidemment toutes les lignes de force de l'artiste, et notamment sa reconnaissance à l'étranger. C'est bien aussi de replacer comme ça, c'est-à-dire qu'aujourd'hui c'est un monument national, mais finalement pendant très longtemps il a été un peu occulté de cette scène-là. C'est un provincial aussi, et ça il va le garder jusqu'au bout, et ça va aussi motiver cette forme d'individualisme dans lequel il va qu'il va revendiquer, j'allais dire se complaire, mais il va le revendiquer. C'est-à-dire je n'appartiens pas à un groupe, et ça va donner aussi toutes ces ambiguïtés qui sont très bien traduites aussi dans ce livre-là, à savoir dans quelle case ranger Soulages. Est-ce que c'est dans ce grand débat entre l'art contemporain américain, new-yorkais surtout, et Paris qui est en plein déclin, donc au moment où lui commence à monter, eh bien on ne sait pas trop s'il fait partie de l'expressionnisme abstrait ou plutôt de l'abstraction lyrique, le tachisme, l'art informel européen. Et finalement, cette forme de singularité, d'ambiguïté qui va être tenue tout le long va être le fil rouge qui va nous permettre de rentrer en fait dans cette œuvre-là et de dépasser un peu les a priori qu'on peut avoir sur Pierre Soulages. Notamment le fait que les monochromes noirs arrivent quand même assez tard finalement dans l'œuvre, même si elles sont bien préparées, et puis aussi ce lien que je trouvais vraiment pertinent entre le grand travail sur les vitraux de l'abbatiale de Conques et la naissance, ou en tout cas la généralisation des polyptiques à partir des années du milieu des années 80.
Bah voilà, déjà un sérieux aperçu de ce livre, Anaël Pigeat, vous poursuivez ?
Oui, alors j'étais très contente de lire ce livre parce que je crois pas être très sensible en fait au travail de Pierre Soulages. Alors justement, je me demandais si j'allais me laisser convaincre par ce livre. Et au fond, ce livre m'a donné envie de retourner voir des œuvres. Alors c'est assez concluant comme expérience.
C'est plutôt bien, oui.
Absolument. Effectivement, ce long essai de Robert Fleck a quelque chose de très sensible. Il parle vraiment des tableaux, il parle vraiment de la peinture. Alors effectivement, on apprend des choses, enfin, en tout cas cette reconnaissance en Allemagne et aux États-Unis qui intervient avant sa reconnaissance en France est très bien montrée. C'est une chose relativement peu connue. Il y a aussi ce retournement de la critique pendant 25 ans contre lui en quelque sorte, et qui donne lieu à une réhabilitation à partir de la fin des années 70, à partir de l'exposition du Centre Pompidou en 79. Il y a un autre aspect aussi que j'ai trouvé très intéressant, qui est son rapport au nouveau roman, qui nous apprend que finalement il y a une sorte de parallélisme entre la définition qui a été faite du nouveau roman, une sorte de neutralité qui se retrouve finalement dans la peinture de Soulages. On apprend que Soulages a été plein d'admiration pour Nathalie Sarraute, qu'il l'a rencontrée. Il y a des récits assez amusants sur une visite de Claude Simon qui fait des poèmes pour une série de dessins de Soulages. Soulages dit en fait pas du tout, ça a rien à voir avec son travail, et que les poèmes ont été publiés séparément. Pardon, je dis Claude Simon, mais en fait c'est Butor, excusez-moi, dont les poèmes n'ont pas été publiés avec les dessins. Enfin, il y a cet entretien avec Hans Ulrich Obrist. Alors, effectivement, au début, j'étais très désemparée. Je me disais que c'était, Florian, vous disiez feignant. Enfin, il y a quelque chose de presque drôle. Et finalement, je trouve que cet entretien donne, comme vous commenciez à le dire, à sentir l'atmosphère dans cette maison, dans la maison de Soulages à 7, maison qu'il a construite, ce qu'on apprend aussi. On voit tout son univers, on voit ses rapports avec sa femme, Colette Soulages, qui est un personnage très important. Et finalement, ça nous donne une entrée dans l'œuvre sensible qui est intéressante. Il y a une chose, et je trouve que ça donne finalement une sorte d'humanité et presque d'humour à cet univers, une vision qui a une part d'humour, ce qui est assez plaisant quand on parle de la peinture de Soulages, qui n'est pas précisément une chose fandarde, je ne sais pas si on peut dire ça au féminin. En tout cas, il y a une très jolie chose à la fin du livre, c'est une sorte de touche de couleur rouge visuellement en mots dans le livre. Robert Fleck quitte c'est Hans Ulrich décidément, Webberist, qui quitte la maison de Soulages. Et là, Soulages lui dit, oh ben, on va vous raccompagner en voiture à la gare dans une Méhari rouge. Et on quitte le livre, comme on quitte la maison de Soulages, dans la tache de couleur rouge, dans cet univers, somme toute, très noir.
Bon, je vois Stéphane Correard qui me fixe toujours hein, pendant que vous parlez, ce qui me trompe toujours. Hein. Enfin, je trouve que façon de faire, peut-être un panneau entre nous, je ne sais pas. Mais qui n'a pas l'air d'accord sur plein de choses, Stéphane.
Alors non, enfin effectivement, Florian et Anaëlle, je crois, ont lu le livre, en tout cas, que l'éditeur a voulu faire et que les auteurs ont voulu faire, puisque effectivement, ce livre répond, à mon avis, à une double ambition. La première, c'est de réfuter deux lieux communs sur le travail de Soulages. La première, c'est que ce serait un artiste des années 50, typique de ce qu'on a appelé la deuxième école de Paris, ou de l'abstraction lyrique, ou de l'expressionnisme abstrait à la française. Et la deuxième, c'est, ils le disent d'ailleurs à un moment dans le livre, que ce soit toujours la même chose, qu'il fasse toujours la même chose. Donc effectivement, cette rupture du noir total est totalement mise en scène dans le livre, et les écarts avec ses contemporains aussi. Ça, c'est ce que le livre veut faire. En réalité, moi, j'ai trouvé le livre totalement pathétique.
Ah oui, à ce point-là.
Oui, au sens propre, c'est-à-dire qu'on sait que la vieillesse est un naufrage, mais dans le cas de Soulages, c'est pas le cas, puisqu'en fait, je trouve que Robert Fleck reprend, puisqu'il reprend en fait aussi tout l'appareil critique et beaucoup de choses qui ont été dites sur Soulages et surtout par Soulages, et en fait, il ressasse sans arrêt les mêmes obsessions aigres, je trouve,
même
très négatives. Bah, par exemple, à un moment, il dit une chose que je l'ai déjà entendu dire plusieurs fois. Il dit, Soulages, lorsqu'il y a une date sur un tableau, je n'y crois que s'il y a eu une affiche ou un catalogue qui me prouve son exactitude, par exemple. Donc je trouve que c'est une espèce de suspicion généralisée envers ses collègues.
Qu'est-ce qu'il y a d'aigre là-dedans ?
En fait, ça veut dire, parce que c'est justement l'aigreur que je ressens dans le fait, par exemple, qu'il n'y a pas un artiste dont il est dit du bien dans ce livre, en dehors de Pierre Soulages. Ils sont tous passés à la mitraillette, à part Pierrette Bloch, à qui le livre est dédié, mais dont il ne parle pas, alors que c'était une des rares artistes, peut-être, pour laquelle il avait de l'admiration. Mais sinon, même Hartung, son ami, soi-disant ami, son travail est exécuté, mais aussi Pollock, dont il dit que le retour entre guillemets à la figure, qui est pourtant passionnant chez Pollock, lui dit que ça rend l'ensemble de son œuvre pathétique, justement. Il dit que ça fait pathétiquement basculer son œuvre. Franz Klein, qui est donc devenu abstrait après lui, et c'est là où je voulais en venir avec cette histoire de date, c'est qu'il est obsédé par le fait qu'il a été abstrait 2 ans avant Klein. Personnellement, je vois vraiment pas ce que ça change, à part dans une espèce de doxa moderniste qui dit que de faire des bâtons noirs sur un fond blanc, c'est une invention remarquable et que celui qui l'a fait en premier doit en être glorifié. Aussi Richter, quand on lui parle des vitraux de Richter, il dit
Cologne,
oui, c'est beau, mais c'est traditionnel. Moi, j'ai fait quelque chose de tout à fait nouveau. En fait, il a toujours tout fait de plus nouveau, de mieux que les autres. Enfin, moi, c'est vraiment ce que j'ai ressenti. Il dit des choses, même d'ailleurs, qui relèvent carrément de la mégalomanie. Il dit à propos de son exposition au Centre Pompidou. D'ailleurs, il parle tout le temps du nombre de visiteurs qu'il a dans son musée, qu'il a au Centre Pompidou, comme pour se gargariser de son succès. Il dit, il y a une chose que j'ai pas pu m'expliquer dans cette exposition, c'est la quantité de personnes qui ont pleuré dans mon exposition. Bon, enfin, ça, il y a que lui qui le dit. En réalité, non, mais il y a beaucoup de choses. Je dirais, il y a que lui qui le dit. Par exemple, cette histoire sur le nouveau roman m'a paru très intéressante et même passionnante parce que beaucoup d'artistes, d'écrivains, pardon, de cette génération ont beaucoup écrit sur les artistes dans un compagnonnage. Or là, aucun écrivain du nouveau roman n'a écrit un mot sur l'œuvre de Soulages. Donc, il est très fort pour dire Picabia adorait mon travail. Bon, personnellement, je suis un fan absolu de Picabia. Je vois vraiment pas ce qu'il a pu trouver. Au travail de Soulages, on peut le réfuter aussi. On peut le réfuter aussi. Il dit aussi que Godard est passionné par son travail. Et après, il convoque Deleuze et Guattari. Enfin, il y a énormément de parallèles aussi qui sont faits entre la, par exemple, l'usage de la ponctuation chez Claude Simon et l'usage des traits dans la peinture de Soulages. Bon, tout ça me paraît pas très sérieux, en tout cas très. Ça me paraît vraiment être une histoire qu'on nous raconte, un conte. C'est un conte pour enfants, finalement, qui est ce livre.
Mais vous ne lui concédez rien. Il a pas
si,
de place importante.
Si je concède, ça c'est encore un autre débat. Mais en tout cas, je concède effectivement la description des tableaux. Chaque chapitre commence par un tableau qui est décrit et effectivement de manière assez sensible et agréable. En réalité, par exemple, sur Sarraute, je pourrais citer ce que, parce qu'il dit, en plus, il se recoupe parfois, même dans ses mensonges à l'intérieur du livre. Donc, par exemple, il dit que Nathalie Sarraute lui a écrit une lettre sublime avec, sur sa peinture, la peinture en général, etc. Et puis, malheureusement, en fait, 100 pages avant, la lettre est reproduite. Elle fait 20 lignes, en moyenne de 4 mots par ligne. Et Nathalie Sarraute lui dit, un peu en se défaussant, votre peinture, de toute façon, je peux pas mettre les mots parce que la peinture, on peut pas mettre les mots, et voilà, quoi. Bon, enfin, donc, c'est ça que lui trouve.
Oui, vous êtes à
sublime.
Charge, vous, hein, quand même.
Non, c'est
tout ce que vous
dit...
lisez est à charge, Stéphane.
Bon, disons, que c'est vrai que je l'ai pas lu avec un je l'ai pas lu de manière non parce que vous verrez sur un autre livre auteur que je peux changer d'avis que je peux tout à fait changer d'avis, mais il y a des choses qui moi j'ai trouvé carrément hilarantes. Enfin, il y a une scène que raconte Robert Fleck en disant d'ailleurs que la photo dans le catalogue, je crois, de l'exposition du Centre Pompidou est magnifique. Il raconte que chaque tableau, ce qu'on sait que Soulages aime suspendre ses tableaux dans l'espace sur des câbles, il dit que chaque tableau polyptyque était soutenu par deux ou trois personnes dans cette grande salle où il devait y avoir une vingtaine. Donc imaginez 50 personnes en train de tenir des tableaux de Soulages, et Soulages au milieu circulait en leur disant reculez là, avancez là, jusqu'à ce qu'ils trouvent l'équilibre parfait. Bon, ça, j'ai trouvé cette scène personnellement très comique. Et il y a autre chose, je trouve, pour moi c'était vraiment le grand bourgeois. Il y a autre chose dans la visite d'atelier d'Antoine Chaubris, alors là c'est carrément aussi hilarant, c'est-à-dire que il y a son assistant qui est là. On ne connaîtra pas son nom, hein. Tout le monde a son nom et ses initiales, mais lui, comme c'est un pauvre ouvrier employé,
si,
il a le droit qu'à Jacques.
Jacques.
Il a Jacques. Je comprends que ça vous ait plu, Anaël. C'est un prénom qui vous est cher. Mais en tout cas, on ne connaît pas son nom de famille. Il n'a pas le droit à un nom de famille. C'est un simple employé. Il est tout le temps appelé Jacques, d'ailleurs, alors que les autres sont appelés par leurs initiales. Et il l'appelle le maître et il l'appelle monsieur, carrément. Donc quand Antoine Chaubris lui dit: est-ce étoile? Est-ce d'autres essais? Alors le Jacques lui répond: oui, ce sont des essais que monsieur a fait. Que voulez-vous que je vous montre? Enfin, je ne sais pas, j'ai l'impression.
Ce passage est en effet totalement bizarre.
J'ai l'impression que c'est une pièce de théâtre, moi,
oui,
en fait, qui était ajoutée
en fait,
au livre.
Moi, je l'ai pris au second degré. Enfin, je me suis posé la question et je me suis dit que finalement, ça ne pouvait être que pris au second degré. Parce qu'effectivement, Jacques parle à la troisième personne de monsieur.
Mais comme dans toutes les maisons bourgeoises.
Oui, mais ce qui retranscrit dans un entretien dans ce contexte, en effet, est tout à fait.
Quand c'est un verbatim, ça me paraît tout à fait normal.
Tout à fait bizarre.
Alors, sur ces nombreuses critiques, la rafale coréenne est partie. Florian Guettet.
Moi, j'ai distingué effectivement le jugement qu'on peut porter sur l'artiste et puis l'œuvre qui nous est décrite. J'ai pas trouvé que c'était un livre qui était non plus dans l'éloge permanente, qu'elle laissait quand même une certaine marge où nous on pouvait se positionner, et qu'effectivement, moi, la lecture du livre, Pierre Soulages ne m'apparaît pas du tout comme quelqu'un de sympathique. J'ai pas envie de rencontrer, j'ai pas envie de parler peinture avec lui, d'autant qu'il donne des phrases, alors qui sont parfois très paradoxales, parce qu'il peut aller sur des choses très banales. Alors, il a une définition de la peinture qui donne depuis très longtemps: une œuvre d'art est une organisation de formes sur laquelle viennent se faire et se défaire les sens qu'on lui prête. Donc,
ça, c'est un texte de 48, ça.
Banalité confondante, mais finalement, il assume encore aujourd'hui, hein, puisqu'il il le répète et même il insiste sur se défaire. Et en même temps, il y a parfois quand même une forme de sagacité, on va dire, avec l'âge, sur notamment le rythme, quand il dit: c'est lorsque forme et couleur disparaissent à titre individuel, lorsqu'elles cessent d'être séparables, que naissent le rythme et l'espace. Je trouvais ça, voilà, moi, ça a été une clé de lecture qui est assez intéressante. Et puis tout ce basculement aussi sur, moi, finalement, je travaille pas sur le noir, mais je travaille sur la lumière que fait le noir. C'est juste aussi un positionnement assez simple, assez convenu, mais qui était bien traduit et qui, moi, m'a permis aussi de réévaluer mon regard sur Soulages, puisque moi non plus, je suis pas quelqu'un qui est passionné par son œuvre. Donc j'ai trouvé qu'il y avait la place pour une distance critique. En tout cas, je l'ai lu avec cette distance critique-là. Quant au nouveau roman, effectivement, on sent bien, mais il y a une histoire très sentimentale, notamment avec Sarraute. Enfin, ils disent qu'ils s'aiment, alors c'est répété 100 fois, et puis à chaque fois, ils prennent leurs précautions, mais ça ne veut rien dire, etc. Donc, c'est vrai qu'on l'a plus sur l'anecdote personnelle, quoi, entre les deux, que sur vraiment le fond du propos, quoi. En même temps, elle l'a quand même invité sur une revue qui s'appelait Digraph, à illustrer, etc. Donc il y a eu quand même aussi des collaborations malgré tout plus effectives.
Ouais, moi j'avais oublié cette histoire avec Lévi-Strauss en 88, quand Lévi-Strauss attaque sur le métier perdu pour défendre la peinture figurative contre l'abstraction. Il y a quand même des passes d'armes assez intéressantes.
Et qui durent jusqu'en 99.
Hein, oui, ça commence en 88. J'avoue que ça m'avait un peu... Effectivement, du coup, Soulages se retrouve en première ligne en tant que représentant monument national et trésor national vivant. Un tout dernier mot, Naël Pigeat, parce que le temps file et vous avez des coups de cœur aujourd'hui.
Quand on fait parler un artiste d'autres artistes, il n'est pas rare qu'ils considèrent que son travail c'est plus intéressant que celui des autres.
Rares sont ceux qui sont généreux envers leurs collègues.
Absolument. Donc, je trouve que ça relativise ce que vous disiez, Stéphane. Mais et finalement, le mérite de ce livre, c'est de montrer Soulages comme une sorte de phénomène. Il y a cette phrase de McLuhan qui est assez amusante, qui dit à la télévision, les couleurs vous foncent dessus comme dans un tableau de Soulages. Je trouve qu'on a envie de retourner voir Soulages. C'est un certain mérite.
Bon, je ne suis pas sûr que ce soit le cas pour Stéphane Correa, mais bon. Pierre Soulages, Robert Fleck, Hans Ulrich Obrist, édition Manuela, à suivre dans la dispute les espaces alternatifs new-yorkais et William Kentridge.
France Culture,
La Dispute,
Arnaud Laporte. Get the right.
Suite de cette émission consacrée ce soir aux arts plastiques par le prisme des livres avec une histoire des espaces alternatifs à New York, de Soho au South Bronx. 69-85, c'est l'année de Pauline Chevalier aux éditions Presse du Réel. L'auteur et maître de conférences, son domaine de recherche porte sur les convergences entre littérature, danse, culture, images en mouvement dans l'art américain depuis les années 60. On goûte quand même encore un petit peu de Glenn Branca, une figure évidemment importante de ce livre. Dans son introduction, Pauline Chevalier parle de la nouvelle flambée des espaces alternatifs ou anti-alternatifs depuis quelques années à Brooklyn. Elle propose aussi des ponts entre aujourd'hui et un passé récent, celui des années de son étude, donc de la moitié des années 60 à la moitié des années 80. Ont éclos, ai-je lu, dans la seule ville de New York, plus de 70 espaces et groupes d'artistes dits alternatifs. La ville est grande, mais quand même. Pauline Chevalier s'intéresse donc à cette histoire topographique, temporelle, sociologique, esthétique, politique, mais aussi au récit de cette histoire. C'est ça qui est aussi intéressant, puisqu'il y a beaucoup d'archives qui sont maintenant disponibles, mises en regard de ce qu'elle a pu trouver par les groupes qui ont eux-mêmes raconté leur histoire, histoire d'histoire et histoire tout court. Tiens, si Stéphane Correa commençait.
Eh bien oui, merci.
Aux Presses du Réel,
Arnaud,
ce livre.
En effet, c'est un livre qui est issu apparemment d'un travail de recherche, notamment d'une thèse sous la direction d'Éric de Chasset. Mais moi, je l'ai lu vraiment comme un roman d'aventure. C'est autant ça. On emporte le vent de l'art.
Un gros roman d'aventure.
Oui, un bon pavé. On aurait pu je vous le conseille pour la plage, pour ceux comme Arnaud qui iront au soleil pendant les vacances. C'est vraiment une épopée pour moi comparable à New York, New York de Scorsese ou Il était une fois en Amérique de Sergio Leone, mais dont les héros s'appelleraient Akonchi, Mata Clark, Carol Schneeman ou Trisha Brown. D'ailleurs, ça commence presque au même endroit. Ça commence à Soho, tout près de Little Italy ou de Chinatown, dans le déclin des industries de Soho, qui donc libèrent de grands espaces qui sont interdits normalement à l'habitation. Mais ce qui fait un appel d'air pour des artistes dont la légalité n'est pas le souci premier et qui sont plutôt à la recherche de grands espaces pas chers. Donc les artistes s'y engouffrent en effet dans ce bas de Manhattan et d'abord illégalement, puis ensuite à peine toléré par un système dit AIR, Artist in Residence, qui accepte au départ deux artistes par immeuble seulement. En réalité, ce mouvement qui va précéder la naissance de ces lieux alternatifs, qui finalement éclos ensuite naturellement, vient de deux lames de fond qui sont finalement parallèles. La première, c'est la nécessité pour les pour New York de conserver des artistes dans la ville. Hein, c'est un enjeu stratégique dès les années 60, puisque Clement Greenberg écrit en 61 dans le Village Voice. Juste au moment où New York devient une capitale mondiale de l'art, l'artiste devient l'objet d'un harcèlement de plus en plus vif. Donc, il fallait sauver le soldat artiste américain et qui reste à New York. Et puis, en même temps, évidemment, c'est contre le musée, comme elle le rappelle, ou plutôt contre un certain type de musée, garant d'une esthétique moderniste et relais des dominations de genre, de race et de classe. Les auditeurs assidus de la dispute auront reconnu le MoMA. Donc c'est contre le MoMA, on pourrait dire. Ce qui d'ailleurs rend d'autant plus piquant l'absorption par le MoMA de PS1, l'un de ses principaux espaces alternatifs, en 2000. En gros, on est dans l'utopie des années 60. L'art doit occuper une place centrale, à la fois au point de vue personnel, dans la dimension intime. L'atelier et le logement doivent être intriqués dans la vie sociale et aussi dans l'espace urbain, dans le tissu urbain. Le modèle étant finalement l'avant-garde parisienne des années folles. Cette manière, un témoin le dit, où il y avait une manière de vivre où la ferveur se mêlait à la frivolité. Donc les artistes jouent le premier rôle dans cette histoire, effectivement. D'abord c'est eux qui sauvent Soho de la destruction, mais aussi de l'autoroute qui devait le traverser, notamment avec cette association Artists Against Expressway qui est emmenée par Donald Judd, il y a une lettre, mais aussi Evan Reiner, Rauschenberg, etc. Et l'artiste Fluxus, le chef de file de Fluxus, Georges Massunas, qu'on surnomme l'inventeur de Soho. Bon, peut-être que je laisse la parole.
Ah oui, faisons tourner la parole, mais ça commence bien cette histoire. Florian Guettet pour la poursuivre.
Ben oui, une étude passionnante parce qu'on a envie, de la vivre en fait. Moi, je suis né à la fin de cette période-là, donc j'ai tout loupé. Et c'est vrai que je vis avec cette nostalgie-là d'un monde que je n'aurais de toute façon pas pu connaître. Mais j'ai trouvé vraiment très... Alors effectivement, la forme doctorale demande une certaine exigence en fait. Hein, la lecture, il faut... voilà, il y a vraiment beaucoup de détails, il y a une sorte de formalisme très académique dans la présentation. Mais quand on dépasse ces petites résistances, eh bien on trouve quand même une enquête fouillée, vraiment très 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 précise, avec des documents d'archives que moi j'ai essayé de retrouver sur Google et que je n'ai pas retrouvé. Donc je me dis qu'il y a aussi un travail là très précis sur la documentation, même si les illustrations, je trouve, sont pas assez nombreuses finalement par rapport à ce qu'on trouvait. Mais bon, elle explique aussi que c'est un problème de documentation de l'époque, hein. C'est-à-dire que effectivement on faisait tout dans une forme d'immédiateté et qu'on n'avait pas forcément besoin encore de créer des archives de ce qui était en train de se faire. Oui, même c'était presque à contre-emploi.
Oui, parce que les œuvres elles-mêmes devaient pas rester, alors faire des archives sur des œuvres qui ne restent pas, ça devient compliqué.
Et alors tout, il y a quand même un suspense qui éclot en fait dans cette lecture. C'est, est-ce que les espaces alternatifs qui vont en fait chercher leur définition en permanence pendant toute la période vont devenir une tradition, c'est-à-dire à quel point on peut maintenir une forme de marginalité sans s'inscrire dans une normalisation, sans être récupéré par les institutions. Et ce découpage en fait en trois périodes, on va dire, ce découpage historique va permettre justement de montrer que les espaces alternatifs se sont fait recouvrir finalement par eux-mêmes en fait, mais c'est-à-dire que la critique institutionnelle est devenue une institutionnalisation de la critique. Donc de 69 à 76, on a toute une première génération débordante d'expérimentalisme, une effervescence intellectuelle, vraiment une envie de créer ensemble, etc. Et je pense qu'aujourd'hui, on doit y être attentif, puisqu'il y a un vrai retour, c'est vrai, de cette attention aux pratiques collaboratives. C'est au programme du BAC cette année, il y a beaucoup de revues, il y a beaucoup d'expositions, il y a beaucoup d'ateliers d'artistes aussi, d'artistes run spaces qui s'ouvrent. Donc c'est pas vain, c'est pas simplement historique et poussiéreux, ça a aussi une actualité, et puis une actualité parce que c'est un passé qui est quand même assez récent. Ensuite, donc 69-71, on a cette première génération. 76, il y a une sorte d'année charnière avec l'ouverture de Soho et le déplacement justement sur d'autres quartiers, notamment Tribeca. Et le terme espace alternatif à ce moment-là est repris par les médias. Donc déjà, on est dans une forme de trahison par rapport à son projet premier. Et dans les années à partir de 77 et jusqu'au milieu des années 80, eh bien on est dans une critique très virulente de l'alternative, de justement ce que peut être l'alternative, parce qu'elle a été récupérée par des musées, notamment par l'intermédiaire du New Museum, qui effectivement va servir un peu de cheval de Troie pour les grandes institutions qui vont récupérer le phénomène. Alors moi, j'étais très attentif quand même, évidemment, par rapport à mes thèmes de recherche aussi, à mes envies, mais à la place de la performance en fait là-dedans, qui va être vraiment un des, avec la vidéo je pense, un des genres qui vont être le mieux représenté et qui vont arriver à fédérer en fait autour de leur forme sculpture, cinéma, littérature, poésie, la poésie aussi est très présente. avec évidemment l'héritage du happening qui est encore là, mais finalement jusque dans les années 80 on retrouve ça avec notamment Times Square Show qui va là aussi représenter la performance. Et puis ce lien aussi très ténu qu'il peut y avoir entre l'architecture, le mobilier urbain, la situation dans laquelle ils sont et les modes de création en collectif, avec tout un ensemble de thèmes qui ne sont possibles que dans cette économie-là, à savoir la mise en scène du quotidien, la ritualisation du quotidien. Et là, enfin, moi, j'ai beaucoup ri quand j'ai vu que Philippe Glass était plombier, parce que effectivement, on les voit en fait eux-mêmes, la truelle à la main, construire leur espace et ensuite faire des pièces sur l'expérience qu'ils viennent de vivre, sur aussi comment on se nourrit à plusieurs avec The Kitchen. Enfin voilà, qui remet en scène finalement cette vie collective là. Enfin bon, moi j'ai trouvé ce livre vraiment effervescent et ça m'a vraiment donné envie de créer moi-même un espace alternatif à Paris.
Oui, ou anti-alternatif peut-être.
Ou anti-alternative, parce qu'en fait c'est là aussi où tout se fait la différence.
Alors Annaëlle Pigeat, pour expliquer peut-être cette différence.
Je souscris absolument à ce propos sur la thèse qui ressemble à un roman d'aventure, ce qui ressemble à une chose assez étonnante. Il y a plusieurs échelles dans ce livre. Mes camarades ont très bien montré la dimension macroscopique de cette évolution sur deux décennies qui sont en fait assez rarement associées, les années 70 et les années 80. C'était le cas de l'exposition de Guillaume Desanges à la Maison Rouge, l'esprit français aussi, qui avait à peu près les mêmes dates, là c'est 69-85. La Maison Rouge c'était
65-85,
je crois que c'était après Paris. Et c'est assez intéressant de rapprocher ces deux mondes qui ont l'air très différents et qui en fait ne le sont pas tant que ça. Ce qui est intéressant dans ce livre aussi, c'est la manière dont Pauline Chevalier décrit les modes de vie des artistes de manière extrêmement précise et la manière dont finalement ces modes de vie influent sur les formes, dans le rapport à la performance, dans le rapport à l'architecture, à ces lieux qui ne sont pas censés durer, comme le disait l'un ou l'autre de mes camarades, je ne sais plus, et qui finalement conduit à des formes nouvelles et après la rupture de 76 dont vous parliez, à une présence de la vidéo et de la page comme un lieu de création, c'est-à-dire le développement la notation de la performance, d'édition d'artistes, l'essor de la presse, etc. Ce livre associe de remarquable aussi qu'il est assez facilement utilisable par morceaux, c'est-à-dire qu'il y a des points, et c'est ça qui fait qu'en fait c'est pas tellement un digeste, on peut prendre, il y a des sortes de mini-monographies par artiste, par lieu aussi, on voit apparaître par exemple au début, dans les premiers espaces alternatifs, le 112 Green Street, le Clock Tower, Food, dont vous parliez Florent, le restaurant de Gordon Matta Clark, on voit la Franklin Furnace en 75-76, la Kitchen des Vasulka qui est un haut lieu de la vidéo. Et puis un peu plus tard, il y a un long passage sur l'exposition Pictures en 77 qui est tout à fait, qui est un tournant avec Jack Goldstein, Robert Longo et Cheryl Levine, qui est un tournant absolument essentiel. Et à la fin, il y a ce grand passage sur Fashion Moda qui participe de l'occupation du sud du Bronx entre 78 et 93, cet espace dur, et ces deux grandes expositions dont vous parliez, Florian, le Times Square Show et le Real Estate Show. Ce qui est intéressant dans ce livre aussi, je trouve, c'est la manière dont ces deux décennies éclaire les pratiques contemporaines et la manière dont on peut actualiser cet amas de recherches et de connaissances qui sont rassemblées dans ce livre pour voir comment aujourd'hui les pratiques collectives sont très répandues, les éditions d'artistes sont très répandues, le travail sur le document, sur la presse aussi, voilà. Donc c'est vraiment très nourrissant.
Ah, c'est très nourrissant, ce très gros beau livre, je vois qu'il est publié avec la collaboration de Laurence Bertrand dans l'EAC, Centre d'histoire des Sciences Po, ça ne m'étonne pas qu'elle soit pas loin, parce que c'est quand même quelqu'un de précieux aussi. Mais pour arriver à cette forme de conclusion, une phrase très simple qui dit de Pauline Chevalier, l'alternative est une nostalgie sans issue. Je trouve ça très, très beau d'en arriver là, après avoir raconté cette effervescence, cette multiplicité de créations, de relations aussi, bien sûr, entre, non seulement entre les lieux, mais surtout entre les artistes qui les constituent. Fashion Moda, évidemment, une importance. Et en plus, bon, ça sort des barrières temporelles, mais il y a quand même aussi beaucoup de gens qui ont été repérés, qui ont travaillé là, qui ont fait partie de cette aventure-là. Qu'est-ce qui vous a le plus étonné, peut-être, Stéphane Corrière, dans cette lecture?
Alors, ce qui m'a le plus étonné, c'est deux choses. Une en négatif, je dirais, une en positif. En négatif, c'est que finalement... ces espaces qui sont ancrés dans des lieux forts, dont ils ont souvent pris d'ailleurs l'adresse ou le type d'espace comme nom, finalement on crée une esthétique nouvelle à base de matériaux de construction, évidemment, parce que c'est ce qu'ils pouvaient trouver. Comme le disait Florian aussi, la place accordée aux thématiques domestiques, le banal, la vie quotidienne, la confusion entre la sculpture et la danse, des installations immersives, des collaborations pluridisciplinaires. Bref, finalement, ce qu'on a l'in situ.
On en mange
devenu,
encore. Hein.
Qui est devenu une forme d'académisme.
C'est beaucoup.
Évidemment, qui est devenu une forme d'académisme, même quand il n'est plus justement pris dans les mêmes réalités. En positif, j'ai retenu que donc il y avait tous ces lieux qui étaient un peu finalement sur le même registre, et puis il y en a quand même deux effectivement qui sortent à mon avis totalement du lot. Le premier, c'est Food, on l'a dit, de Gordon Matta Clark, puisque c'est un écosystème complet, c'est un espace de vie, de travail et aussi un gagne-pain pour les artistes qui font la cuisine, etc. En même temps, on se rend compte, et notamment une critique de Milton Glaser dans le New York Magazine, que c'est complètement l'ancêtre du fooding. Ils ont vraiment inventé et aussi des relations d'ailleurs avec une ferme où était Trisha Brown qui fournissait les légumes, etc. Et l'autre évidemment, c'est Fashion Moda qui a inventé, je trouve, un modèle qui est aujourd'hui, par exemple, celui qui est un peu celui de Museum of Everything, enfin, de manière reportée, mais en tout cas de ce mélange, comme son fondateur en parlait d'une collection, et j'ai beaucoup aimé ce que disait Lucie Lippard, qui décrit cet art fait de rien, de hasard et d'objets de la culture vernaculaire. Elle dit, toutes les expositions de Fashion Moda présentent de l'art, et ce qui ne pourrait être appelé art par ceux qui croient savoir, des dessins d'enfants, des jouets, des puzzles, des inventions, des signes peints, des objets manufacturés, et des, appelez-les comme vous voudrez, sa définition ne tient ni de l'art, ni de la bonne action. En même temps, c'est un lieu qui avait un engagement social incroyable, sans aucune bonne pensée vaine et factice. Donc, je trouve ça, c'est vraiment un exemple. Et pour répondre à Florian, je pensais pas à Paris qu'il faut du coup le créer. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Il faut aller comme lui l'avait fait dans le Bronx. Il faut sans doute aller aujourd'hui à Aubervilliers ou même à Saint-Denis, voire à Sarcelles, pour créer un lieu comme ça.
Vous suivez le conseil, Florian Guettet?
Ah mais je j'y souscris totalement et je pense de toute façon que c'est là aujourd'hui qu'il y a une certaine vitalité aussi. Hein. Les ateliers d'artistes se montrent justement dans cette petite couronne-là, Pantin, etc. Moi ce qui m'a étonné, puisque c'est votre question, mais c'est de voir que finalement malgré ces comportements collectifs, finalement c'est beaucoup d'individualités qui sortent et que il y a une forme de coexistence parfois plus que de co-création. Moi je m'attendais, il y a vraiment des groupes, Grand Union par exemple de Richard Dunn, etc. qui poursuivent un peu l'héritage de la Judson et qui essayent de faire groupe, mais sinon en fait on a quand même une sorte de, chacun travaille un peu dans son coin et puis alors, après on essaye de s'arranger, il y a une forme de négociation en fait entre des individualités, mais pas forcément encore une utopie véritablement du communautaire.
Bon, moi qui avais peur de vous imposer cette grosse lecture, vous en êtes tous les trois ravis, et moi donc. Une histoire des espaces alternatifs à New York de Soho South Bronx, 69-85, c'est donc le titre de ce livre de Pauline Chevalier, publié aux Presses du Réel.
France Culture,
La Dispute,
Arnaud Laporte. Get the right.
Le troisième sujet de cette dispute art plastique, livre avec le catalogue d'une exposition Smoke, Ashes, Fable, Fumée, Cendres, Fable, qui propose une sélection d'œuvres de William Kentridge au musée de l'hôpital Saint-Jean à Bruges, l'occasion aussi pour le plasticien sud-africain de dialoguer avec le lieu, mais aussi avec la collection, aussi avec Marcel Bretars. Un catalogue qui propose également quatre texte qui s'intéresse au lien de Kentridge avec justement avec Bruges et avec Brotars notamment. À peine une petite respiration musicale parce que des coups de cœur sont annoncés en fin d'émission. Anaëlle Pijat.
Ce livre, c'est un catalogue, enfin c'est plus qu'un catalogue, mais peut-être moins, peut-être plus qu'un livre, qu'une monographie. Enfin, c'est un objet un peu hybride, en fait, qui m'a un peu embarrassée, pour dire la vérité. Alors, j'ai pas vu l'exposition, et c'est assez intéressant parce que ça soulève la question de savoir ce que c'est qu'un catalogue d'exposition. Une exposition, c'est quelque chose de très fugace. Le catalogue, c'en est la trace. Mmh. C'est donc essentiel dans l'histoire. Et je trouve que ce catalogue ne rend pas très bien compte de cette exposition qui s'est tenue à Bruges. On la prend quand même.
Qui se tient jusqu'au 25 février.
Qui se tient en ce moment à Bruges, dans l'hôpital Saint-Jean, qui est aussi le musée Memling, et dans lequel on apprend qu'il y a, dans l'exposition, des œuvres de Marcel Bretars. Alors, les textes sont intéressants. Il y a quatre textes, en effet. Le premier est une introduction de Margaret Carner, qui est aussi la commissaire de l'exposition. Alors, on apprend des éléments biographiques. Kentridge a été un activiste en Afrique du Sud. On apprend que son père a été un grand avocat contre l'apartheid. On apprend un certain nombre de choses sur son œuvre, les figures clés, le porte-voix notamment, etc. Ensuite, il y a un beau texte de Joseph Carner, qui est son mari, que semble-t-il Margaret Carner a associé dans l'aventure, parce qu'ils se sont tous les deux pris de passion pour le travail de Kentridge. Tout ça est assez plaisant. Alors, Joseph Carner fait une sorte de généalogie du thème de la danse macabre qui est très présent dans l'œuvre de William Kentridge. Il y a un beau texte sur l'origine cinématographique du travail de Kentridge, notamment dans le pré-cinéma de Harmon Siegel et le côté un peu magicien comme ça du 19e. Et puis à la fin, il y a le texte de Benjamin Burlot qui parle en gros, d'après ce que j'en ai compris, d'une réception de la modernité Brotars-Beckmann par Kentridge. Ça se conclut par une sorte de commentaire sur Hans Hacke. Le langage.
Je vous sens pas convaincu, Anaëlle.
Non, vraiment pas. Alors peut-être il vaut mieux que je m'arrête là. Je vais pas faire l'exercice cruel de la citation de ce livre parce que ça serait vraiment trop cruel. Mais ce texte-là, vraiment, c'est dommage parce que l'exposition comportant des œuvres de Marcel Brotars, moi j'ai pas compris pourquoi. Une petite chose que je voulais ajouter, c'est que dans le catalogue d'une exposition, il y a des vignettes, mon voisin se manifeste, il y a des vignettes, des œuvres exposées, d'accord. J'ai vu, il y a un an, un catalogue de William Kentridge qui était d'une poésie rare, dans lequel on pouvait, à l'aide d'une application scannée sur un téléphone, regarder des vidéos à partir des images du catalogue.
Alors pourquoi pas cette fois ?
Alors pourquoi pas cette fois ? C'était pas du tout technoïde comme on pourrait le craindre. C'était vraiment extraordinairement réussi et ça m'a beaucoup manqué dans ce livre.
Alors votre voisin, c'est Stéphane Coréard qui chausse ses lunettes.
C'était moi le voisin, enfin c'est toujours moi le voisin pour l'instant. Alors effectivement, moi, alors je vais vous surprendre, mais j'ai une lecture absolument inverse de ce livre. Pour moi, ce livre est magique, voire même sorcier, dans le sens où il a fait évoluer radicalement la vision que j'avais du travail de Kentridge, qui m'a jamais passionné, et qui m'a même fait changer d'avis sur le livre lui-même. Il faut reconnaître que le livre commence assez mal. La préface du bourgmestre et du directeur du musée montre clairement c'est un projet pour attirer des touristes.
Non, mais
c'est
encore un peu différent.
Et changer l'image de la ville qui est un petit peu poussiéreuse. Le texte de Margaret Carner est catastrophique, à mon avis. Elle l'appelle l'artiste William, ce qui est quand même une familiarité.
Alors que c'est Bill.
Oui, c'est ou pas assez ou trop familier. Et alors, crime de lèse-majesté totale pour moi, elle qualifie Brotars de faire-valoir et de représentant excentrique de l'avant-garde européenne. Donc là, j'ai vraiment cru qu'on avait affaire à une folle furieuse. Pas du tout. Ce qui m'a d'abord fait changer d'avis, c'est la pertinence des illustrations, de l'iconographie. Je trouve que la place
qu'occupent les images dans la page est une maison sérieuse pour ça, oui.
Et les enchaînements. Non, mais c'est vraiment en résonance avec le texte. Et du coup, ça galopait un peu avant. J'ai trouvé des textes personnellement absolument passionnants tous.
Y compris le dernier,
totalement. J'étais totalement pourtant réticent au rapprochement Kentridge-Brotars, qui est quand même détaillé par deux des auteurs, effectivement par Buclo et par Harmon Siegel, qui effectivement part de la magie de Robert Houdin et de Méliès. Et moi, m'a complètement émerveillé et fait voir des choses dans le travail de Kentridge que je n'y avais jamais vu. Et j'aime beaucoup aussi la thèse de Buclo. Effectivement, il parle de cette idée d'un écart par rapport à la doxa moderniste. On va passer pas la fête du MoMA dont on a déjà parlé ici, mais moi je vais citer une petite phrase de Buclo. Il dit leur renonciation, c'est à propos du parallèle Brotars-Kentridge, leur renonciation programmatique à la doxa moderniste internationale, surtout américaine, formulée dans les années 60 en fusionnant les héritages respectifs de Marcel Duchamp et des cultures de l'avant-garde russe, de Frank Stella à Karl André et Robert Morris par exemple, à l'origine de la création et de la théorisation de pratiques artistiques allant du post-part au post-minimalisme et à l'art conceptuel. Donc effectivement, il évacue tout ça et là il remonte un fil que moi m'a personnellement passionné. Effectivement, Beckmann, que j'aurais pas vu dans cette histoire, Schwitters, Hertfield, donc les collages Dada, et effectivement la comparaison avec Hans Hacke qui amène en fait à cette œuvre magnifique de Brotars qui s'appelle Le problème noir en Belgique, une œuvre de 63-64 où il y a des œufs recouverts d'une peinture noire sur un journal qui proclame en titre Il faut sauver le Congo. Moi j'ai trouvé au contraire que c'était d'une subtilité, d'une intelligence totale.
Bon, 2 sur 3 pour vous ce soir, c'est pas mal. Hein, Florian Guettet.
Moi je me suis perdu dans ce livre, mais j'ai pris beaucoup de plaisir à me perdre. comme finalement on peut se perdre très vite dans l'œuvre de William Catridge, parce que il y avait vraiment quelque chose de très prolifique, hein, dans toutes les formes, alors les dessins sur papier, sur carte, sur livre, les tapisseries, les estampes, le théâtre d'ombre, la lanterne magique, le film d'animation, le cinéma, marionnettes, théâtre, etc. Enfin, c'est vraiment, on a peine à croire presque qu'il puisse toucher à tout ça en une seule vie, quoi. Donc évidemment moi tout ce côté très théâtral m'a intéressé. Effectivement, je trouve que le papier atteint des limites parce que tout ça on en a pas en fait la saveur, quoi. Heureusement, on peut aujourd'hui aller sur internet et chercher à vivre ces expériences, mais on parle beaucoup d'installations, on parle beaucoup d'installations, etc. Et finalement on a que des illustrations de dessins, d'œuvres graphiques, quoi. On n'a pas il me semble de rentrer comme ça, on peut pas se projeter quand même dans ces, alors que moi personnellement, c'est ce qui m'intéresse le plus, quoi. Très, très, très honnêtement. À part peut-être le phénakistoscope, un peu compliqué, mais qui reprend une sorte de machine, puisqu'il y a effectivement toute cette machinerie, cette mécanique, en fait, autour de Quintrich, qui donne envie de réenchanter le monde par la magie. Alors ça, c'est le thème c'est le troisième texte. Et je trouve ça assez juste, et ça m'a permis, effectivement, de repositionner quelque chose... sur le désenchantement, sur ce rôle de l'ombre, en fait, chez Quintrich, qui est quand même primordial. Et il le rattache à une forme d'anti-platonisme. Alors, moi, évidemment, ça m'intéresse, cette position-là. Parce qu'il dit, mais finalement, il n'y a pas de connaissance dans l'ombre. Ça, c'est ce que dit Platon. L'ombre n'est qu'illusion, etc. Et lui, d'ici, il y a une connaissance en creux, en défaut. Il y a une connaissance en négatif. Et je me suis posé la question de savoir ce que ça pouvait être, cette connaissance en négatif. Et je l'ai mis en lien à quelque chose qu'on retrouve aussi là, qui est le spectacle de la mort. C'est-à-dire qu'à un moment, montrer la mort, ça peut être aussi un spectacle en soi, la danse macabre, mais aussi dans l'hôpital Saint-Jean de Bruges. Et finalement, ça ne se révèle pas dans la lumière, mais ça se révèle dans les coins sombres, dans les coins plus discrets. Et finalement... il y a une éducation du regard avec Quintrich qui nous permet, comme ça, d'aller, de porter attention sur des coins sombres et de façon beaucoup moins ostentatoire, on va dire, que Soulages, quoi, qui nous balance, qui a un écran, puisque là aussi on pouvait faire des liens entre les deux. Mais lui, il y a quelque chose de plus discret, en fait, qui m'a vraiment interrogé. Donc je reste sur ces interrogations-là et je maintiens ma position anti-platonicienne grâce à lui.
Bon, enfin, c'est pas toujours très discret, hein, quand même, William Quintrich, avec quand même des œuvres très ostentatoires. Alors, on parle beaucoup de l'installation More Sweetly Play the Dance, donc revitalisation de cette danse macabre qui est visible en ce moment à Bruges, mais il ne faut pas oublier qu'on a pu la voir à la Villette pendant plusieurs mois au printemps dernier dans l'exposition Afrique Capitale. C'est vrai que ça a une certaine efficacité. Moi, c'est très compliqué, Quintrich, que ce soit au théâtre ou dans ses travaux plastiques, il y a des choses que je trouve épouvantables et de prétention et de... mauvais goût, c'est évidemment la question du mauvais goût, c'est une autre chose. Et il y a des choses parfois très fines. Moi, c'est vraiment un artiste que je ne comprends pas, Quintrich. Tout petit mot, parce que sinon vous n'aurez plus de temps. Pensez-y.
Ce côté magique.
Ne me le reprochez pas. Après.
Qu'il y ait dans l'œuvre de Quintrich, ce côté magique est très lié à une iconographie de la fin du 19e siècle. Et une réalité, ce qui me chagrine, c'est que je trouve qu'on sait trop peu de choses de l'exposition dans ce catalogue.
Bon, mais vous restez allé à Bruges. Vous avez jusqu'au 25 février pour y aller découvrir cette exposition. Le catalogue, lui, édité chez Actes Sud, est bien sûr disponible dans toutes les bonnes librairies. Il s'intitule William Quintrich, Smoke, Ashes, Fable. Et là, une trappe s'ouvre et nous ouvrons un espace qui n'était plus visité depuis cette rentrée dans la dispute. Donc vous êtes les heureux bénéficiaires de coups de cœur, vous me l'avez demandé. Bon, ma bonté n'a pas de limite. Vous avez chacun 2 minutes, et vous vous débrouillez avec, pour nous parler d'un autre livre ou revue, ça dépend des uns et des autres. Donc ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu Stéphane Coréard, ça nous manque. Il a rechaussé ses lunettes et il a sorti un gros livre de
absolument, j'ai sorti un gros livre de 304 pages, qui n'est pas en français, grand malheureusement, format. Qui est en italien et anglais.
C'est tellement chic.
Mais non, c'est pas du tout chic parce que malheureusement, il n'y a pas de livre en français sur Bruno Munari, l'artiste dont j'ai choisi le catalogue. Et donc, c'est à cet effet que j'ai choisi celui-ci, qui vient de paraître. Je l'ai acheté quand même en France, hein, je l'ai acheté à la librairie du Centre Pompidou. Il s'appelle Artista Totale, c'est le catalogue de l'exposition du musée Torrefico de Turin, qui s'est terminé en juin dernier. C'est une excellente introduction à l'art et à la pensée de Bruno Munari, qui malheureusement est trop mal connu, même si on connaît beaucoup de ses réalisations. Il est né en 1907, mort en 1998. Picasso l'aurait surnommé le Léonard de Vinci du XXe siècle, bon. Ce qui est assez pratique, on prête beaucoup de choses à Picasso, mais dans ce cas-là, c'est vrai.
Et Soulages, il n'a rien dit sur
Andrea Busto, le directeur du musée, le résume en trois mots: éclectique, ironique et poétique. C'est sans doute d'ailleurs pour cette raison qu'il s'est fait aussi discret. C'est quand même quelqu'un qui a créé exactement en même temps qu'Alder dans les années 30 des mobiles, mais en papier, ficelle et carton. Comme il le dit lui-même, tous mes amis en avaient, mais ils ne les mettaient pas dans leur salon, ils préféraient mettre des bronzes, ils mettaient ça dans les chambres d'enfants. Mais Bruno Munari a proliféré dans les chambres d'enfants. Il a notamment eu le Compas d'or, la plus haute récompense pour un designer italien, avec un lit habitacle pour les enfants qui s'appelle Habitacolo. C'est aussi un grand pédagogue. Il y a des écoles en Italie qui portent son nom. Il a inventé beaucoup de processus pour éveiller les enfants à la créativité. C'est donc un peintre, un sculpteur, un designer, un graphiste, un cinéaste expérimental. Il a créé notamment des objets incroyables comme des livres illisibles. Il est aussi l'auteur d'un supplément au dictionnaire italien, qui est un dictionnaire de gestes, qui était quand même une innovation attendue.
En Italie, quand même.
Et c'est aussi un pionnier du Xerox Art dans les années 60. C'est le premier à utiliser la photocopieuse pour faire des œuvres uniques. À ce titre-là, une artiste activiste américaine comme Trini Dalton considère que c'est le père des fanzines. Bref, c'est un personnage absolument passionnant. Le livre est richement illustré. On aurait pu faire un livre 10 fois plus gros, parce que Bruno Munari est vraiment un artiste touche-à-tout multiple, mais qui est allé à fond dans chacun de ses domaines. Il y a un entretien avec l'historien Gillo Dorfles très intéressant. Il y a aussi un entretien avec Bruno Munari qui date de 92 dans ce catalogue. C'est donc, à mon avis, le bon conseil pour découvrir cet artiste génie.
Bon, bon conseil, évidemment, référence à retrouver sur le site de La Dispute, sur franceculture.fr. Conseil d'Anaël Pigeat, le gazouillis des éléphants.
Alors, comme j'ai 2 minutes pour 950 pages, peut-être que je vais commencer par faire porter mon coup de cœur sur le titre de ce livre, qui vient d'une stèle à l'entrée d'un jardin. Un arboretum qui raconte ici, sur lequel est écrit « Ici on entend les éléphants gazouiller ». C'est un livre aux éditions du Cendre par Bruno Montpied, qui fait des recherches depuis presque 40 ans sur des espaces, des jardins, des intérieurs, des maisons, des façades conçues, inventées par des artistes, par des êtres singuliers, par des inventeurs, par des créateurs de tout poil, si j'ose dire. Alors, c'est un livre très gros qui est organisé par région, comme une sorte de dictionnaire. Donc, en fait, c'est une invitation à la promenade. C'est un atlas illustré.
Je me suis dit que ça ressemblait à un
atlas.
En
quelque sorte. C'est un atlas des lieux singuliers de l'art. C'est très amusant à lire parce que Bruno Montpied raconte ses découvertes au fur et à mesure. Il y a des lieux qui ont disparu, qu'il a découvert seulement avec des cartes postales. Il y a des lieux qui sont entretenus par les descendants de leurs créateurs. Il y a des lieux qui sont encore... Il y a par exemple un village de Henri Galtier qui s'appelle Camarière Village Occitan. Donc là, c'est tout un village artificiel sur une colline. Il y a l'anonyme de Septeuil qui a été découverte par une carte postale, simplement. Il y a Marcel Landreau, le caillouteux, à Mantes-la-Ville. Alors ça, c'est un endroit qui a été détruit, mais il y a des éléments conservés à la fabuloserie et au musée de l'art brut, à la collection de l'art brut à Lausanne. En gros, le livre est aussi fou que son sujet. Peut-être pourrait-on le résumer de la manière suivante: le dictionnaire des facteurs chevaux.
Oh, c'était la chute d'Anaël Pigeat concernant le gazouillis des éléphants de Bruno Montpied, édition du Cendre. Et on finit avec Florian Guettet et avec une revue. Florian.
Oui, je profite de ce coup de cœur, de ce retour futif du coup de cœur marquer mon soutien à un projet de revue qui s'appelle Femmes photographes, d'une évidence assez regrettable, hein, l'invisibilisation des femmes dans la photographie, comme dans beaucoup de disciplines artistiques, malheureusement. Et ce sont 4 femmes, donc Isabelle Gressier, Kimian Nguyenti, Maud Vess et Noémie Aubry, qui ont décidé de prendre les choses en main, de pas attendre qu'on vienne les chercher, et donc d'organiser elles-mêmes la diffusion de leurs travaux. Mais bien au-delà de ça, c'est un projet que je trouve très touchant, parce qu'il est déjà d'une qualité, une vraie qualité artistique, hein. Le choix est très bien fait des photos. L'objet lui-même, c'est un grand format, il y a une vraie attention à la couleur, et surtout il y a très peu de texte critique. Donc les photos sont vraiment montrées telles quelles et pas noyées dans un texte critique. On laisse juste là quatre lignes aux photographes elles-mêmes pour se présenter. Alors c'est un programme sincère, je disais, parce que il organise beaucoup l'échange en fait entre ces femmes-là. Elles s'échangent leur expérience, leur matériel. Il y a un vrai saut générationnel aussi, puisqu'on a vraiment des jeunes photographes de 20-30 ans et des photographes un peu plus mûrs d'une soixantaine d'années. Et là, elles sortent donc leur numéro 3. Moi, ce qui me plaît aussi, c'est que effectivement, c'est une revue féminine, mais elle n'est pas genrée. Elle montre aussi que les femmes sont capables de faire comme les hommes. Le numéro 3 sort en ce moment et demain à la librairie Violette & Co à 19h.
Et on le trouve où sinon ? Et sinon, on la trouve où la revue ?
On peut la trouver en ligne, hein. Il y a une plateforme qui leur sert de diffusion et qui peut aussi servir pour les commandes. Et puis ensuite, vous avez toute une liste de librairies, notamment sur Paris.
Merci pour ces coups de cœur en plus de vos autres lectures. Concluons avec le jeu de la dispute, avec un rappel d'abord du jeu d'hier au soir, rappel effectué par Grégoire Di Fiore.
Quel est le titre de la pièce du chorégraphe Jérôme Bell pour 2 danseurs et 11 objets ? Et la réponse était non donnée par l'auteur.
Ce soir, on fait gagner des places de cinéma pour le film The Florida Project de Sean Baker, qui est sorti aujourd'hui dans les salles, dont on parlera vendredi dans la dispute. La question ?
Quel est le nom du lac artificiel situé dans l'enceinte de Disney World en Floride ?
Votre réponse ainsi que vos coordonnées postales à envoyer à auditeurfc@radiofrance.com. Toutes les informations concernant cette émission sont à retrouver sur notre site internet franceculture.fr à la page de la dispute, un site sur lequel, bien sûr, vous pouvez réécouter nos émissions et vous abonner au podcast. Demain, 19h, dispute consacrée à la littérature avec Florent Georgesco, Philippe Chevillier et Jean-Christophe Brianchon. À notre sommaire, détail de Marcel Cohen, histoire de la littérature récente, tome 2 d'Olivier Cadio et un certain Monsieur Piquielny de François-Henri Désérable.